repérage du bibliothécaire.
Bonjour, monsieur Benigno.
Bonjour, Marc. Comment vas-tu là? Tu te sens plus léger, plus presque avec les pieds marrants?
Oui, tout à fait.
Oui, mais alors on a de nouvelles aventures peut-être t'attendre, mais avant cela, il faut quand même enregistrer ces numéros du BSR Actu.
Absolument, c'est ce qu'on est en train de faire par ces beaux jours de printemps. Oui, non, pardon, ces beaux jours d'automne.
Oui, mais pour toi, c'est le printemps, tu te sens comme en plein printemps, mais il fait beau en plus aujourd'hui.
Absolument.
Donc, absolument. Alors, on va profiter de cette belle journée pour parler un petit peu de ce qu'on a vu, des livres qui ont été enregistrés, de ceux qui sont en cours et de ceux qui attendent d'être attrapés et lus.
D'accord. Alors, commençons.
Oui. Alors, concernant cette liste de ce mois de septembre, qui est le mois de la rentrée littéraire, mais aussi de la rentrée des classes, tout simplement. Alors, on a bien sûr une belle palette de romans policiers, comme toujours, avec quelques grosses pointures qui sont disponibles, notamment le dernier Joe Nesbo, qui s'appelle Les Couteaux, les 66083, et puis bien entendu le dernier Millennium, qui a été attendu par un bon nombre de nos auditeurs et nos auditrices.
C'est le sixième du nom.
Le sixième du nom, et en principe le dernier. Il s'appelle « La fille qui devait mourir », donc. Et il est disponible à le numéro 66076. Donc ça, c'est par rapport au polar. Il y en a bien d'autres, et de tout genre et de toutes nuances. Mais j'aimerais aussi parler des deux romans qui ne sont pas des policiers. Qui sont un peu, quoi qu'il y en a un qui pourrait être... qui frôle un petit peu les genres, en tout cas, du roman noir. Et qui sont deux romans français, mais différents. Le premier, c'est le roman en partie biographique historique, mais c'est un roman d'une auteure ou autrice franco-suisse, d'ailleurs, qui s'appelle Diane Brasseur. C'est son troisième roman et il s'appelle La Partition. Et partition, bien sûr, il y a la notion de partage, mais aussi la notion de musique, partition de musique. Parce que la musique joue un rôle dans les livres. Et le livre de Diane Brasseur raconte l'histoire d'une famille, enfin plutôt une mère avec ses enfants et des relations aussi entre frères, qui parcourt par la force des choses depuis la Suisse jusqu'en Grèce, et la Belgique retour en Suisse, et jusqu'aux années 70. Et l'histoire des personnages qui ont vraiment existé, donc parce que c'est la famille de Diane Brasseur en partie. Et alors cette femme, cette grecque qui se marie ici en Suisse allemande, qui doit à un moment donné partir, qui part et en Grèce à un moment donné avec un de ses enfants parce qu'on lui permet de partir, il a deux fils et on lui dit voilà, tu peux partir mais il faut que tu en laisses un. Donc qu'est-ce qu'on fait? Elle part, elle décide de partir, elle prend le fils qu'elle considérait le plus fragile ou auquel elle s'était plus attachée. Ça crée, bien sûr, ça va créer, comme il est évident, des tas de situations complexes dans cette famille, avec cette mère grecque qui est une personnalité forte, magnifique, mais particulière, qui est très jeune d'ailleurs, quand elle a ses enfants, et même pas 20 ans, et qui part en Grèce, qui retrouve l'amour qu'un homme beaucoup plus âgé, qui vont repartir en Belgique. Après, cet enfant, Bruno, va revenir en Suisse, va être prof, et va avoir une vie ici, et dont je ne vais pas tout raconter, mais c'est un roman très poignant, très, très bien écrit, et avec beaucoup de sensibilité, et qui se passe en grande partie en Suisse, et même à Lausanne, en partie. Donc ça s'appelle la partition avec les numéros 66091.
D'ailleurs, petite remarque pour les auditeurs, vous retrouverez un débat avec Diane Brasseur et deux autres écrivaines dans le livre sur les quais, un petit peu plus loin dans ce BSR Actualité, si ça vous branche.
Absolument. Et puis, le deuxième roman, c'est un roman de quelqu'un qui n'est plus, qui s'appelle, vous appelez, Pierre Goldman. C'est un personnage assez particulier dans les panoramas français des années 60 et 70. Et Pierre Goldman, qui est d'ailleurs le frère, le demi-frère d'un chanteur et compositeur connu, Jean-Jacques. Mmh. Et alors Pierre Goldman, c'était un personnage parce qu'il a été... alors ses parents déjà... C'était des résistants, des vrais résistants communistes français, bon communistes, juifs en plus, et ils étaient, ils ont eu la vie très dure pendant la Deuxième Guerre mondiale et toute cette période de l'occupation allemande, mais ils ont été dans la résistance. Et lui, c'est un personnage un peu à part puisqu'il était, il a été bon communiste, il a été guérillero, il a été bandit. Et il a été braqueur, il a été en prison, et puis il a même été accusé de meurtre des deux pharmaciennes, parce qu'il a fait des braquages, bien entendu. Et il était quand même plus ou moins orienté à gauche, bien qu'avec un côté anarchiste très marqué. Alors, il a été en prison, et en prison, il a conçu ses livres, c'est son seul livre, et qui est un roman complètement fou, iconoclaste, plein d'humour noir, complètement politiquement incorrect, qui s'appelle « L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport » et qui raconte ce personnage qui est un tout petit peu l'alter ego de l'auteur, qui est un braqueur, qui est un intellectuel, qui est tué pour écrire, comme il dit d'une certaine manière à un moment donné, et qui se pose plein de questions sur le monde, qui est en même temps philosophe, qui est extrêmement cultivé, qui est un grand danseur de salsa, il va même à Cuba, donc c'est un personnage complètement fou, qui rassemble beaucoup à Pierre Goldman, justement. Et faut savoir que Pierre Goldman, il est sorti de prison, il a écrit son livre, et il a été tué peu de temps après, en 1979. On ne sait pas encore par qui, mais on suppose que c'est par un mouvement d'extrême droite qui s'appelait, et il y avait ses noms, D'où, Honneur et Police. Donc, on ne sait pas. Pas exactement, c'est pas encore, ça n'a pas été prouvé. Bon, de cette manière, on comprend pourquoi. Et donc, il a été tué en 79. Le livre, il est bien écrit, il est fou. Bon, il est un peu dérangeant par moment, mais c'est un, pour comprendre l'ambiance, les intellectuelle, spirituelle et folle des années 70, il faut lire ce livre, L'ordinaire mésaventure d'Archibald Rapoport, avec le numéro 66093. Donc ça, c'est pour deux lectures un peu différentes et à la fois qui donnent des visions du monde différentes. Il faut savoir aussi, bien entendu, qu'on a un certain nombre de candidats au prix littéraire, mais j'en parlerai prochainement parce que là, pour l'instant, on est aux premières sélections qui sont déjà en lecture ou déjà lues. Et ça, c'est présent, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'autrices ou d'écrivaines, des femmes candidates aux différents prix littéraires.
Et pour l'avenir, il y a des choses qui...
Alors, en production et en lecture, il y a deux livres qui sont en lecture. Et notamment, un, justement, qui est candidat au Goncourt, parmi les candidats au Goncourt, qui est d'une autrice, il faut que je m'habitue à utiliser ces mots.
Ça s'appelle du politiquement correct.
Mais bon, il y a toute une réflexion autour de ça. Il y en a qui n'aiment pas, d'ailleurs. Il y a des femmes écrivaines qui n'aiment pas les mots autrice, d'autres, oui. Bref, Léonore Amiano, c'est une auteure franco-camerounaise, et très connue. Et son dernier livre, qui est un pavé, il s'appelle « Rouge impératrice ». Et ce livre-là, il est intéressant en plus d'un aspect, puisqu'il fait une sorte de dystopie. Tu sais que la littérature dystopique, c'est un peu à la mode, mais c'est bien parce que ça permet de nous donner une alternative à ce qui pourrait se passer si. Et en l'occurrence, un siècle plus tard, pourtant que la planète existe encore, et l'Afrique devient prospère, est unifiée, et ce sont les Européens qui sont un peu dans la mouise. Alors il y a des Français qui sont réfugiés en Afrique, et c'est le descendant de ces Français, bien sûr, parce qu'il y a un siècle passé. Alors ils sont un petit peu mal vus. Et on veut le faire expulser parce qu'on en a marre de ces profiteurs de Français qui sont là en Afrique. Et donc après, il y a évidemment personne qui ne veut pas qu'ils soient expulsés, mais les chefs de ces grands États unifiés de l'Afrique veulent chasser tous ces foulazis, comme on appelle ces descendants des Français. Bref, il y a tout ce monde à l'envers, en quelque sorte, qui nous donne une vision assez originale de ce qui se passe, disons, actuellement. Et donc, ça s'appelle « Rouge impératrice ». Il est en lecture. Et l'autre livre, qui est beaucoup plus petit et très différent, c'est le livre d'un écrivain sicilien qui s'appelle Josué Calachurra, et le livre s'appelle Borgo Vecchio. Borgo Vecchio, la vieille ville. Et c'est un petit coin, un petit quartier paumé dans lequel il y a deux garçons qui vont vivre ce qu'on vit dans ces milieux où il y a la pauvreté, il y a la dureté, et il y a beaucoup de poésie. Et il y a des personnages incroyables, comme il y a une jeune fille qui est la fille de la dame qui est un peu la fille des joies du quartier, en quelque sorte. Et sa fille qui aime étudier, qui doit un peu dealer avec sa mère qui a un boulot un peu particulier. Il y a ces deux enfants, dont un, c'est un coquin, arnaqueur, commerçant et vendeur de charcuterie italienne, mais qui arnaque leurs acheteurs. Et puis il y a l'autre, et gamin qui est un père complètement fou, qui les bat constamment. D'ailleurs, ça fait écho à notre bouquin qui est sorti récemment de Jean Moix et compagnie. Mais là, en l'occurrence, le livre de Calachurra, justement, il y a un personnage qui est un père abuseur de son fils, Le livre est raconté, dit comme ça, ça a l'air horrible, d'ailleurs, et ça l'est, mais c'est raconté avec tellement de poésie, avec une langue, et tellement ciselé que la beauté du livre l'emporte sur le sujet. Donc, ça s'appelle Borgo Vecchio et il est aussi en lecture. Voilà parmi, bien sûr, la pléthore des livres qui sont en lecture et en production.
Et puis pour vraiment l'avenir cette fois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sur ta table?
Qu'est-ce J'imagine plein de choses. Plein de choses sur la table, surtout en ce temps de rentrée. Alors deux livres qui se déroulent, mais de manière très différente en Allemagne, mais qui sont très différents, puisque un, c'est un roman, si on pourrait appeler ça un roman, puisqu'il est basé sur des faits réels, c'est un roman d'immersion, qu'on peut appeler, et l'autre, c'est un livre de vulgarisation philosophique, mais excellent. Le premier, c'est alors une jeune autrice, qui est d'ailleurs candidate à un ou deux prix littéraires, elle s'appelle Emma Becker, donc Becker parce qu'elle est en partie, elle a quelques bribes d'origine allemande, bien que c'est une Française. C'est une Française qui a décidé, elle avait déjà écrit deux livres, mais elle a décidé d'écrire un bouquin sur un métier, sur un domaine, et pour lequel elle ne s'est pas seulement contentée de faire des recherches, mais elle l'a vécu. Et le roman s'appelle La Maison, et ça parle des bordels en Allemagne. Et pendant 2 ans, elle est devenue prostituée, vraiment.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, elle est devenue, elle a été dans différentes maisons de passe, parce qu'en Allemagne, à différence de la France, la prostitution est autorisée, largement. En France, c'est un peu ambigu la situation, mais c'est un peu trouble, on peut pas. En Allemagne, c'est encore plus libre qu'en Suisse. Et donc, il y a d'abord, elle est reconnue comme telle. Donc, Emma Becker, elle s'immerge. Et c'est le cas de dire dans la chose. Mais c'est une femme cultivée qui sait très bien écrire, qui décrit très bien ce qui se passe, et sans a priori ni parti pris. Et en plus, elle l'a vécu, donc elle sait d'une certaine manière de quoi elle parle. Et le livre, elle est bien écrit, j'étais surpris en bien, parce qu'il y avait quelques appréhensions, toujours un sujet un peu racoleur, on va, mais non, pas du tout, pas du tout, c'est un très bon livre, La maison d'Emma Becker. Donc, et en plus, j'imagine que ça va attirer des gens par des raisons très diverses, bien entendu.
C'est clair, c'est clair.
Donc, les deuxièmes, c'est tout à fait autre chose, bien que parfois il y a des philosophes qu'on se demande si il y a des filles et des joueurs qui sont un peu plus des moelles. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce livre de Wolfram Eilenberger qui s'appelle Les temps des magiciens parle de cette période entre la fin de la Première Guerre mondiale et les années 30, 40, et notamment en Allemagne, mais dans le monde germanophone, qui a vu surgir, ou en tout cas éclore, et puis d'autres s'affirmer, des philosophes qui ont été des penseurs majeurs du XXe siècle. Il y a bien entendu Walter Benjamin, Benjamin, si on le dit en français, bien qu'il soit allemand, Ernst Cassirer, qui était un petit peu plus âgé, et Wittgenstein, qui était autrichien, lui, mais qui est... donc, c'est ce personnage qui influençait plein de monde. Et les grands philosophes, pères en partie, en tout cas d'un certain existentialisme et de plein d'autres choses, Martin Heidegger. Heidegger, qui est, pour ce que je disais, pour la comparaison avec la maison, qui est un... considéré comme un des grands philosophes, pas seulement allemands, mais du monde entier, du XXe siècle, et même de tous les temps, et qui, néanmoins, a une attitude un petit peu, si on veut être gentil, ambiguë pendant la période nazie. Alors, ce livre, il fait le parcours de ces personnages, je dis personnages parce qu'ils sont traités comme des personnages, l'exploit qu'il fait Eilenberger, c'est qu'il fait en même temps l'histoire de l'Allemagne, de l'Europe, à ce moment-là, l'histoire des idées de ces philosophes, et il fait une plongée dans leur vie. Et tout ça de manière harmonieuse, sans simplicité à outrance et sans trop d'intellectualisme barbant. Et il arrive à nous faire comprendre leur manière de penser, un peu leur environnement, leur vie, et le livre se lit comme si c'était un roman, alors que c'est un livre qui est à la fois d'histoire, de philosophie et dans une certaine mesure biographique. Les temps des magiciens qui attendent sur ma table. Voilà, parmi bien sûr tous les autres livres qui attendent d'être lus.
Et puis, petite question, comme on en discute chaque fois, ouais. Où en est la rentrée littéraire? Il y a beaucoup, beaucoup de choses, comme chaque fois, chaque année.
Oui, oui, comme je t'avais dit, ça, il y a un tout petit peu moins un nombre, en tout cas, des livres. Et bien sûr, les prix littéraires sont déjà, il y a déjà les prix de l'Académie française vient de sortir. Donc, enfin, la première sélection, tu sais qu'il y a des, il y a des prix qui ont trois sélections, d'autres qui ont deux sélections. Et donc, c'est les premières sélections de prix qui sortent. La plupart sont déjà annoncées. Ensuite, après, il y a bien sûr un écrémage qui s'est fait. Mais cette année, il y a beaucoup de femmes écrivaines qui sont candidates, en tout cas à la première sélection. On va voir si ça reste comme ça.
C'est le tien.
Ouais. Mais en tout cas, il y en a beaucoup pour tous les prix littéraires. Donc, et il faut dire qu'il y en a beaucoup... bien sûr, qui ont publié, bon, toujours, mais là, cette année, j'ai l'impression, peut-être c'est une impression, qu'il y a des femmes, en tout cas, qui sont mises en valeur dans la rentrée littéraire qui s'étend depuis le mois d'août, bien sûr, mois d'août, c'est septembre, et jusqu'en octobre, il y a ce qu'on appelle la rentrée. Donc, il y a des livres qui sortent en la rentrée, puis après, la rentrée tardive, un peu, il y a un de bouquins qui sortent en novembre, mais en fait, le vrai gros de la rentrée, ça se déroule entre août et... on va dire octobre, parce que c'est justement là la période d'effervescence des prix littéraires. À partir de novembre, il y a vraiment les finalistes qui vont être déjà en route pour les prix.
Voilà. Et tu as l'impression que le niveau global, comment est-ce qu'il se maintient?
Écoute, j'ai l'impression, je n'ai pas tout lu, d'ailleurs, mais
bah,
parmi ceux que j'ai lus, j'ai l'impression qu'il y a du bon niveau, qu'il y a une bonne qualité. Alors, avec des styles très différents, et Emma Becker, par exemple, ça n'a absolument rien à voir, bien sûr, avec Léonore Amiano, pour dire deux bouquins dont on vient de parler. Et les styles sont très différents. Mais ils sont bien. Il y a Orango qui a écrit un livre sur écrit un livre sur la période de l'Indochine française, etc. Et puis Maro et compagnie. Puis c'est un style très 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 littéraire, très élégant. Il y en a d'autres qui ont un style plus assuré. La tenue, je dirais que c'est une tenue assez assez élevé. Il y a un certain nombre de bouquins qui justement explorent cette veine dystopique, et cette histoire de qu'est-ce qui se passerait si, ou comment seraient les Paris, le monde, la ville, l'Afrique, si les choses étaient différentes. Et je pense que c'est normal parce que le monde, on se pose plein de questions sur le monde, sur l'écologie, sur la survie de l'humanité, au niveau que ce soit au niveau des migrants, que ce soit au niveau de la politique ou au niveau de la nature. Et donc ça, on voit que cette veine-là traverse une certaine partie, un certain nombre d'auteurs. Et puis après, il y a toute la question du rapport entre les genres, rapport de force, que ce soit un rapport comme Karine Thuil, par exemple, toutes ces accusations des viols, ces jeunes qui commettent des actes un petit peu excessifs, que ce soit les rapports au corps, mais d'une manière un petit peu à contre-pied, comme Emma Becker dans La Maison, où elle assume un peu ce qu'elle fait comme travail. Et il y a ces problématiques. Donc, c'est vraiment une rentrée qui est très ancrée. Alors après, il y a quelques livres qui parlent toujours, comme toujours, de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, l'histoire. Mais il y a une rentrée qui est ancrée dans l'actualité et dans la projection des choses qui arrivent.
Voilà. Donc ce ne sera peut-être pas forcément de la littérature qui sera pérenne.
Ça dépend, parce que la question... Pour qu'un livre dure, c'est pas tellement qu'il parle de le futur, de l'avenir, mais qu'il arrive à toucher un truc, quelque chose qui, même si ça parlait des un vendeur de cornets de glace en 1920, qui n'existait plus, qu'on se rappelle toujours comme les vendeurs de cornets de glace. Donc peut-être que ça va, il y en a qui vont rester.
D'accord, merci.